voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Pour Gildas Verret, l'émerveillement est une composante essentielle d'un bonheur décroissant. On va parler dans cette émission, Gildas, déjà te rencontrer, savoir un peu qui tu es, d'où tu viens. On parlera de permaculture et comme on en parlait vite fait avant à table, de solutions et de problèmes. Donc Gildas, en quelques mots, qui es-tu ?
Je suis Gildas, je suis un humain qui vit très heureux parce que connecté à la nature et à plein d'autres humains. Très heureux parce que j'ai un gamin qui a 2 ans et quelques mois et qui m'apprend des choses tous les jours et qui me force à vivre l'optimisme et le beau côté de la vie, alors que je suis assez soucieux en fait de pas mal de tendances actuelles, mais son envie de vivre m'amène à miser tout ce que je fais sur les solutions et les belles hypothèses qui sont ouvertes devant nous, et je suis heureux parce que j'ai réussi quelque part à unir mes passions qui à une époque s'opposaient, notamment la nature et les humains. Quand j'étais gamin, je passais tous mes mercredis tout seul dans la forêt parce que je trouvais ça plus sympa que les gens. Puis à un moment, j'ai arrêté d'aller dans la nature parce que j'avais envie de me faire des potes. Et puis j'ai vécu avec plein de gens à Paris, puis voilà, et j'aimais cette foule. Mais j'étais loin de la nature. Et dans ma vie de permaculteur, maintenant j'emmène les gens vivre dans la forêt, et ils sont super contents. Et moi j'adore ce truc-là parce que j'ai retrouvé cette connexion forte au vivant, mais dans un collectif humain. Et ça c'est vraiment super de mélanger les deux.
Donc aujourd'hui tu as aussi un peu ce rôle de formateur.
Ouais, c'est un de mes métiers, c'est de former les gens à la permaculture, donc quelque part à prendre les rênes de sa propre vie pour s'émanciper, pour produire ce dont ils ont besoin, pour créer le paysage et les règles de vie qui leur conviennent. Je suis aussi guide nature, puisque j'emmène les gens, comme je le disais, vivre 5 jours et 5 nuits dans les bois, pour se connecter à la nature, pour la comprendre, pour vivre une expérience directe. Et en fait, c'est aussi un peu de la permaculture, puisque comme la forêt, c'est l'écosystème naturel en Europe, ou en tout cas en France, dans ces latitudes tempérées. Quand on comprend comment fonctionne une forêt, on peut concevoir une société beaucoup plus efficace, beaucoup plus apaisée, ou une agriculture beaucoup plus naturelle, ce qui est bien le projet de la permaculture.
Bon, ok, permaculture, c'est bon, le mot tu l'as répété, donc on va maintenant le définir avec tes termes, et savoir aussi pourquoi et comment la permaculture a émergé dans cette société civile.
Zoom. Alors, elle émerge chez nous parce qu'on en a un besoin, j'allais dire cruel, mais ça fait un moment qu'elle existe puisqu'elle a été formulée par des Australiens. Et à mon sens, c'est pas du tout un hasard. Parce que les Australiens, ils étaient tout à fait héritiers de la culture occidentale, qu'ils connaissent bien. Mais en même temps, ils sont suffisamment loin de notre norme hyper puissante et ils sont en contact des aborigènes d'Australie. Et ils peuvent se permettre de voir les faiblesses aussi de notre paradigme et de proposer autre chose. Et donc eux, ils inventent un truc qui mélange les sagesses ancestrales indigènes d'un peu partout sur Terre, que ce soit les indigènes d'Australie, ceux d'Amérique centrale, ceux du Pacifique, et même ceux d'Europe. Hein. Enfin voilà, si on regarde les systèmes de pré-vergers et d'agriculture ancienne, il y a plein de choses intéressantes partout. Donc quand on synthétise toutes ces bonnes idées du passé un peu partout, les sagesses de tous les peuples qui ont su vivre en harmonie avec la nature, et qu'on croise ça avec notre culture occidentale, d'un peu d'analyse, de réflexion, d'organisation et de science, parce qu'on a compris des trucs incroyables sur comment il y a des plantes qui nourrissent volontairement des microbes pour fabriquer de l'engrais, et que ça peut nous permettre de nous passer des industriels de la chimie et d'avoir des champs qui polluent pas, et ben c'est tellement plus sympa. Simplement, voilà, on apprend à mettre des légumineuses partout, et puis on apprend qu'il y a des légumineuses qui sont des arbres, parce que enfin, chez nous, les légumineuses, c'est les lentilles, les fèves, les haricots. Il n'y a pas grand monde qui savent qu'il y a plein d'arbres qui sont des légumineuses. On va mettre toute notre technique au service de l'éthique. À chaque fois qu'on a un projet technique, on va pas juste se dire « Trop bien, on peut faire une nouvelle fusée. Super, on peut faire un nouvel iPhone. » On va se dire « Mais est-ce que cette nouvelle possibilité que j'ai, est-ce qu'elle prend soin des humains? Est-ce qu'elle prend soin de la Terre? Est-ce que le partage est équitable autour de ce projet-là » Ça, c'est notre éthique. 3 choses. soin des humains, soin de la terre, partage équitable. C'est tout simple, mais en fait ça permet de faire un tri absolument génial dans les projets et dans les techniques qu'on utilise.
Pour revenir à la permaculture, souvent on l'associe au jardin, mais c'est beaucoup plus global que ça. C'est aussi lié à l'habitat, c'est aussi lié au rapport, au lien humain. Donc redéfinis-moi selon tes termes la permaculture. Comment tu l'expliquerais à un enfant qui va venir faire ici un stage d'immersion en pleine nature?
Aujourd'hui, si j'ai un môme qui me demande c'est quoi la permaculture, je vais dire, tu vois, on vit dans la nature. Et ben, la nature, elle peut prendre soin de nous, mais pour ça, il faut qu'on apprenne à prendre soin d'elle. C'est compliqué d'apprendre à prendre soin d'elle, et il faut bien l'organiser pour qu'elle prenne soin de nous. Voilà. Et ça, je pense que ça fait vraiment sens pour un môme, de dire que ben voilà, faut se connaître, bâtir une amitié, une confiance, et après vraiment des interactions positives. Pour quand c'est des grands, je dis que notre projet, c'est de bâtir une symbiose humain-nature. Mais c'est tout à fait la même idée. Par contre, ça, c'est le résultat de 50 ans d'évolution du mouvement. La première définition de la perma qui a été donnée en 1978, c'était créer une agriculture permanente. Donc, c'est logique que ça parte du jardin. Historiquement, c'est parti de là. Et dans les démarches individuelles, ça part encore de là. C'est la meilleure porte d'entrée en permaculture. C'est le jardin, parce que c'est le végétal, c'est la vie, c'est la nourriture. Il reste que très rapidement, la permaculture est passée de ce concept de comment on fait une agriculture naturelle basée sur les plantes vivaces qui reproduit les mécanismes spontanés, à comment on bâtit une culture humaine qui permette ce type d'agriculture et qui soit en cohérence avec ses valeurs. Et là, on touche à l'éco-habitat, à la gouvernance, à l'intelligence collective entre les humains, à la gestion de la propriété, à notre notion de la santé, à la transmission et à l'apprentissage, à l'énergie évidemment qui est un enjeu fondamental, à la gestion de l'eau dans le territoire. Et donc maintenant, la permaculture, on le définit vraiment comme l'art de concevoir une culture pérenne ou une culture permanente. C'est notre nouvelle vision de la permaculture, c'est la culture humaine permanente.
Donc une manière aussi de s'interroger sur tous les actes qu'on peut poser dans notre quotidien et leurs répercussions sur l'environnement proche ou lointain.
Exactement. L'injonction de Bill Mollison, c'est prendre la responsabilité de notre propre vie maintenant. Et voilà, tu veux commencer la permaculture, ça commence par ça. Et donc, chacun de tes gestes devient une question. Je me brosse les dents, est-ce que je suis en train de prendre soin de la terre? Ça paraît débile, mais en fait, c'est une vraie question. Déjà, cette brosse à dents, elle vient d'où? Elle est en plastique, elle dure combien de temps? Mais ce dentifrice, il part dans l'évier, il va où? Il y a quoi dedans? D'ailleurs, l'eau qui coule du robinet, elle vient d'où? Pourquoi je suis en train d'utiliser de l'eau qui a été fabriquée par une usine d'eau potable, alors qu'il y a de l'eau potable qui tombe sur mon toit tous les jours? Et juste à partir de se brosser les dents, on peut déjà se poser des centaines de questions qui nous amènent à réinventer tout notre système. Donc à partir d'une question toute bête, on est en train de réinventer notre manière de vivre dans le concret.
Et c'est vrai que c'est très intéressant pour chaque acte se poser la question du pourquoi et du comment, alors qu'on est quand même dans un monde où on a un chemin tout tracé et on est plutôt là à suivre un chemin et on n'a pas cette prise de recul suffisante pour pouvoir ouvrir les yeux.
Et moi, ça me renvoie à cette question de l'émancipation. C'est-à-dire qu'on est convaincu que cette norme sociale, qui est fabriquée notamment par la pub et par la compétition au sein du travail, elle nous invite justement à ne pas sortir d'un schéma de travailleur-consommateur. Et quand je suis travailleur, je veux toujours gagner plus, et quand je suis consommateur, je veux toujours payer moins. Et dans tout ça, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'émancipation, il n'y a pas de bonheur possible. En fait, on croit que le truc est suffisamment absurde. Alors que justement, quand on rentre dans cette logique de dire « mais ma vie, il y a des contraintes dessus et je choisis pas tout, mais en tout cas, c'est moi qui ai la barre et je vais assumer chacun des choix que je fais et je suis conscient de mes contradictions et je vais chaque jour essayer de faire un petit peu plus partie de la solution », et ben on peut redéfinir chaque geste. Et là, on est dans une émancipation qui peut bâtir du sens, créer du lien et tout simplement bâtir de la résilience aussi et de la sécurité pour les uns et les autres et du bonheur d'être ensemble. Parce que rapidement, on s'aperçoit que ça n'a pas de sens de le faire tout seul, donc on le fait ensemble. Et on sort aussi de l'individualisme, qui est quand même une norme super problématique. Quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc remettre au cœur cette notion de la bienveillance pour soi et pour le vivant tout autour de soi.
Voilà, je t'ai dit prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain. En anglais, ils sont encore meilleurs pour les slogans. C'est « People care, Earth care, fair share ». Et donc voilà, chez eux ça arrive. Mais le « care » en anglais, c'est vraiment la philosophie de la bienveillance. Et dans bienveillance, il y a bien et il y a veiller. C'est pas juste « je te veux du bien », c'est « je te veux du bien et je fais l'effort de comprendre qui tu es et de fermer ma gueule parce que j'ai compris qu'en fait là t'as juste besoin que je te donne pas de conseils. Et j'aime bien cette attitude active de la bienveillance, et c'est vraiment le cœur de la permaculture. Mais on est bienveillant avec soi-même, ce qui est déjà un bon début, avec tous les autres tours, avec toutes les formes de vie. Et ce qui est chouette, c'est qu'au bout d'un moment dans ce chemin-là, on n'arrive plus à faire la différence du moment où on prend soin de soi, de la nature et des humains, parce que ça devient un seul et même geste.
Je vais reprendre la petite histoire du colibri avec cette forêt qui est en train de brûler et l'oiseau qui s'affaire à faire sa part pour éteindre les flammes. Dans cet incendie, toi, qu'est-ce que tu y mets? Qu'est-ce que tu y vois? Quel est le feu? Qu'est-ce qui brûle aujourd'hui?
Je vois deux grandes flammes, celle du sens. Il n'y a plus de sens à nos vies. Partout où tu le prends, tout est absurde. Et celle du climat, parce que c'est la conséquence très très matérielle, c'est pas la seule, mais c'est sans doute la plus urgente et la plus globalement destructrice. Et c'est les deux flammes qui me semblent complètement liées et qu'il faut éteindre l'absurdité complète de tout ce qui se fait, puisqu'aujourd'hui à peu près tout accélère dans le mauvais sens, alors qu'on prend l'engagement de tout arranger. Notamment du point de vue climatique, ça fait 30 ans qu'on s'engage à diminuer nos émissions, ça fait 30 ans qu'elles augmentent. Donc ça fait 30 ans qu'on fait le contraire de ce qu'on dit, et que du coup la situation devient vraiment critique. Et justement là-dessus, moi je me suis créé en partie en écoutant Pierre Rabhi, et le mythe du colibri m'a toujours énormément touché. J'en suis arrivé à formuler le mythe du colibri canadair, quoi. C'est-à-dire que maintenant, faut que le colibri l'envoie un petit peu. Et c'est ce qu'on a fait avec Résistance Climatique. On est complètement solidaire de Pierre Rabhi avec l'idée qu'il faut faire sa part. Juste, on pense qu'il est temps de commencer à compter c'est quoi la part d'un être humain. Parce que malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que quand ils ont acheté un kiwi bio ou quand ils ont éteint la lumière, ils ont fait leur part. Nous, on a compté la part que nous ont donné les climatologues, et c'est moins de 2 tonnes CO2 par personne et par an. Et quand on regarde, et ben voilà, j'invite tous les colibris qui veulent faire leur part à faire leur bilan carbone et à regarder ce que ça fait que 2 tonnes CO2 par personne et par an. Et ben c'est une part qui veut dire que on va complètement changer d'univers. Parce que c'est plus du tout possible dans le monde dans lequel on a grandi. Mais c'est le truc que tout le monde nous dit. On veut changer de paradigme. Bah, changer, ça veut juste dire changer. Ça veut dire que ce qu'il y avait avant, ça n'a plus cours. Et pour l'instant, je vois tout le monde qui rêve de changer en gardant toutes les habitudes. Toutes les voitures, tous les avions, tous les smartphones, tout le streaming, toute l'agriculture. Non, si on change, on change. On crée autre chose, une autre relation au vivant, une autre relation aux humains. Et ça, je crois que la logique du colibri canadair qui a compté sa part, c'est pas une petite intention ou c'est pas un petit plus, c'est pas la cerise sur le gâteau. On change totalement la recette du gâteau, quoi.
Avant de t'emmener dans les chiffres et sur le climat et cette notion de bilan carbone, tu disais donc que tu vois deux flammes, le climat et le sens. Donc je vais d'abord m'intéresser à cette notion de sens, cette quête de sens. Pourquoi les gens sont dans cette forme de quête de sens? Et j'imagine que toi tu observes de plus en plus de gens qui viennent à toi, qui veulent changer de vie, qui veulent quitter les villes pour vivre autre chose.
C'est un des trucs qui est impressionnant, c'est qu'il y a énormément de monde qui prend conscience du fait que, notamment dans leur métier, ils se rendent compte qu'ils sont nuisibles, en fait. Ils travaillent du mieux qu'ils peuvent, et ils s'aperçoivent que le collectif auquel ils travaillent, que ce soit gouvernemental ou une grande entreprise, détruit des choses qui leur sont chères, de la biodiversité, des humains avec qui ils ont travaillé. Et prendre conscience qu'on met toute sa compétence au service d'une œuvre de destruction, c'est hyper violent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent ça. D'ailleurs, les médecins du travail parlent d'une épidémie de burn-out qui est très largement liée à cette absurdité du monde du travail qui est plus au service des gens ni du vivant. Et donc ça, je vois énormément de gens qui veulent sortir de ça. Et ben là, on est en cours de permaculture. Il y a à peu près la moitié des gens qui sont en train de lancer une reconversion professionnelle parce qu'ils ont vécu des choses où ils ont l'impression qu'ils ont envie de faire du bien et que c'est pas ce qu'ils ont eu l'occasion de faire dans leur vie récemment. Et l'autre chose qui me paraît très nette sur le sens, c'est que qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que, à force de s'être permis d'être destructeur, on est en danger, en fait. Que, alors aujourd'hui, ça prend la notion de la forme d'effondrement, que ce soit celle de la biodiversité. Enfin, moi, c'est des chiffres qui m'oppressent complètement. Le fait qu'on ait perdu un tiers des oiseaux en 40 ans, c'est une chute de biodiversité qui est complètement vertigineuse. Et ils ont mis le clou là-dessus en publiant une deuxième étude il y a 3 mois où ils disaient à ce rythme-là, les insectes pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Donc c'est pas juste les abeilles c'est un symbole de la biodiversité, mais c'est l'ensemble de la biosphère qui est menacée. Et ça, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui le sentent, c'est que c'est pas juste qu'on fait n'importe quoi, c'est qu'à force de faire n'importe quoi, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, et qu'au bout d'un moment, ça va tomber, et ça va faire vraiment mal. Et que ça fait peur, et puis ça met en colère, parce qu'on s'aperçoit aussi que le mensonge est partout. Parce que partout, les entreprises, l'État nous disent « vous inquiétez pas, on s'en occupe ». La réalité, c'est pas qu'ils s'en occupent, c'est que tout empire. Mais tous les ans, ils continuent de nous dire « vous inquiétez pas, on s'en occupe ». Et tous les ans, il y a de nouvelles études qui disent « mais regardez, tout empire ». Et ça, c'est insupportable. Quand t'es un humain, t'as besoin que les mots aient un sens. Et donc, si quelqu'un dit ben, « on va faire une politique, l'agroécologie est la priorité du gouvernement », comme ça a été dit plein de fois, ben, il faudrait qu'on mette moins de pesticides. Mais c'est pas le cas. On met toujours de plus en plus ou au moins autant de pesticides. Donc les mots n'ont aucun sens. Quand le président te dit qu'on va mettre la planète great again et que la priorité c'est de remplacer les trains par des cars, les mots n'ont strictement aucun sens. Et ça, ça met les gens très en colère. Et c'est logique d'être en colère quand tout le monde ment sur des choses vitales. Ces mensonges-là, ils vont avoir des conséquences. Et voilà, Pablo Servigne et beaucoup d'autres, Mignot et d'autres, ont bien expliqué les conséquences dramatiques qui nous attendent si on tape pas du poing sur la table, s'il n'y a pas un acte d'émancipation. Dire, mais attendez, on peut pas juste mentir sur des questions vitales. Ce qui est chouette, c'est que justement, à la fois les problèmes accélèrent à grande vitesse, mais il y a des milliers de gens qui s'organisent à grande vitesse, qui prennent conscience à grande vitesse, et donc l'issue est totalement incertaine, parce que les forces de résilience et de bienveillance sont en train d'émerger à une vitesse sans doute insuffisante, mais tout de même impressionnante. Donc moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner.
Mais après, j'observe aussi dans cette quête de sens, hein, dans ces changements de parcours professionnel, de gens qui veulent se rediriger vers les campagnes, donc une exode rurale en sens inverse, avec des étoiles plein les yeux, avec cette idée, ou des fois cette illusion de pouvoir trouver un morceau de terre et de créer son potager, d'aller vers une forme d'autonomie. Mais c'est pas aussi simple qu'on peut se l'imaginer.
Non, c'est pas simple. Y a une image du permaculteur dans un hamac, qui est pas complètement faux. Je crois que la quatrième année sur mon lieu, j'ai installé le hamac en octobre et j'ai eu le temps de m'en servir deux fois avant l'hiver. Mais tous les permaculteurs que je connais, ils ont trop de boulot. La terre est basse, hein, ça c'est vrai. Et tant qu'on n'y touche pas, on ne connaît pas exactement ni sa température, ni son poids, ni sa texture. Et l'autre truc, c'est qu'on est totalement déraciné. Je pense que quand on aura deux ou trois générations de gens qui savent un petit peu se nourrir, on aura une certaine efficacité. Il reste que pour des gens qui, comme moi, ont grandi largement dans un mode de vie urbain, on a tout à réapprendre et on est tellement maladroit à côté de ceux qu'on grandit dans la nature que c'est du vrai boulot, quoi. Et puis on n'est pas habitué à travailler sous la pluie, à travailler dans le vent, à travailler en plein cagnard, à travailler physiquement. On est habitué à suer sur un vélo ou dans une salle de sport, mais suer pour se nourrir, c'est une expérience qui est pas fréquente, qui est super enrichissante. Moi, je dors jamais mieux que quand dans ma semaine j'ai eu un bon équilibre entre l'activité physique pour nourrir l'activité intellectuelle, pour concevoir mon lieu, et l'activité intellectuelle pour aider d'autres gens. Quand j'arrive à avoir un équilibre entre ces trois trucs-là, c'est génial. Mais c'est pas habituel.
Là, tu me parles de la problématique physiologique, physique, mais aussi la problématique économique, celle aussi de l'accès au foncier.
Ouais. C'est pour ça que le mouvement permaculturel, à l'origine, et dans pas mal de ses branches aujourd'hui, incite beaucoup plus à l'autoproduction qu'à la production commerciale. Parce qu'en fait, le secteur commercial est tellement truqué. Soyons clairs, en gros, faire travailler du pétrole, ça coûte toujours à peu près 1000 fois moins cher que de faire travailler des humains. Or, nous, notre projet permaculturel, c'est de remplacer les ressources non renouvelables par des ressources locales renouvelables. Et ben donc, à chaque fois qu'on remplace une machine par un humain, on augmente les coûts d'un facteur 1000. Donc, il faut augmenter l'efficacité d'un facteur 1000 pour que ça vaille le coup. Ben, c'est pas simple. Il y en a qui arrivent, mais ça veut dire que c'est des virtuoses. Faire la même chose que les gens qui fonctionnent à l'ammonitrate et au tracteur, avec toute la pollution et toutes les machines, sans polluer, sans énergie extérieure, et que ça fonctionne et que ça gagne des sous, il faut être au moins 1000 fois plus intelligent et 1000 fois mieux organisé. Et quand on est, comme je le disais, assez maladroit en train d'apprendre, c'est hyper casse-gueule. C'est pour ça qu'à la base, la permaculture, elle a été faite non pas pour vendre, parce qu'en plus, je le disais, hein, le jeu commercial est complètement truqué, où on est toujours en concurrence avec des gens qui produisent avec des méthodes pas du tout comparables, mais les gens ont des habitudes de calibre, de produits. Déjà, vendre des panais, c'est pas simple, et vendre des panais un peu tordus, c'est presque impossible. Alors qu'en fait, des panais un peu tordus, c'est très très bien, et quand tu les as fait pousser pour toi-même, même s'ils t'auraient coûté un peu cher si tu les avais vendus, t'es super content de les manger. Et donc, produire pour soi-même, c'est une vraie base d'autosuffisance et de résilience des territoires indépendamment de l'argent. Nous, ce qu'on propose largement, c'est la multicasquette, d'avoir un métier à 2 à 3 jours par semaine qui est une réorganisation de nos savoir-faire anciens dans le paradigme de transition écologique. Typiquement, ce que je fais, moi, je fais de la pédagogie des sciences, mais avant, je faisais ça en mode urbain au Palais de la Découverte. Maintenant, je le fais dans la nature. Donc, j'ai mis cette compétence-là au service de la transition écologique. Ça me permet de gagner des sous. Et je passe le reste du temps à produire de la nourriture, de l'énergie et des fibres. Et pour moi et ma famille, parce qu'en fait, si je calculais le prix que me coûtent mes légumes, j'aurais ni envie de les vendre, il n'y aurait personne pour les acheter. Donc effectivement, l'équation économique est hyper casse-gueule. Il y a pas mal de gens qui y travaillent, parce que c'est vrai que ce serait un immense accélérateur, mais ça amène aussi très souvent à être obligé de faire des énormes compromis sur la règle du jeu. Et nous, on aime mieux obtenir notre indépendance éthique en gagnant des sous, je vous dis, à temps partiel, quoi, dans des choses qui font sens, pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre éthique et de nos solutions techniques de résilience. Si je résume ce parcours-là, pour nous, ça a été... On divise notre salaire par 2 et nos besoins par 4, ce qui fait qu'on manque beaucoup moins d'argent qu'avant.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Gildas, dans l'incendie de flammes, donc cette quête de sens et les problèmes climatologiques. Tu me parlais d'un collectif que tu as créé.
On vient de lancer Résistance Climatique, qui rassemble des citoyens qui ont envie justement de propager un discours de vérité sur le climat. Et en fait, on s'est dit, ça ne sert plus à rien de propager un discours, parce que ça fait trop longtemps qu'on essaye de le faire. Maintenant, faut propager des actes. Et donc, on a dit, nous, à notre échelle individuelle, on va tenir les engagements que le gouvernement a pris et qui ne tient pas, qui étaient les engagements à l'origine du facteur 4, qui, vu le retard pris aujourd'hui, c'est plutôt un facteur 8. Et bien, on a dit, nous, à échelle individuelle, on s'engage à bouleverser toute notre vie dans tous ces aspects pour atteindre ces objectifs-là. C'est nécessaire. On sait que l'État a pris ces objectifs-là parce qu'ils étaient vitaux. Donc on pense qu'on n'a pas le droit de tricher là-dessus. Et on voit bien que l'État triche aujourd'hui. Il n'est absolument pas en train de les tenir. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus difficile à faire à l'échelle de chaque personne que si on le faisait à l'échelle de la société. C'est pour ça que ça s'appelle résistance. Parce qu'on est obligé de le faire seul contre tous. Enfin, pas contre tous, contre la majorité, contre notamment les services publics. Je le disais, aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher de prendre un car qu'un train. C'est moins cher de prendre un avion qu'un train, et ça c'est criminel, et c'est directement un projet politique, c'est-à-dire que physiquement, un avion consomme beaucoup plus qu'un train, donc en énergie et en matériaux. Donc ça devrait être beaucoup plus cher, juste on met une quantité d'argent public gigantesque pour financer les aéroports, la recherche dans les avions, exonérer de taxes les carburants, alors qu'à l'inverse on fait pas du tout ça pour les trains. Mais si on inversait la structure du projet public, ce serait beaucoup, beaucoup moins cher de prendre le train que même la voiture ou l'avion. Et là, d'un coup, on serait plus en résistance, on serait en train d'organiser une transition concertée, logique. Vu qu'aujourd'hui, il faut faire des choix contre-intuitifs contre nos propositions du gouvernement, nous, on a dit qu'on est rentré en résistance pour essayer de montrer qu'est-ce que ça veut dire de prendre un tout petit peu au sérieux ce que nous ont dit les climatologues. Pour nous, ça veut dire 4 choses très simples. On rassemble des gens qui, volontairement, se sont engagés à bouleverser leur vie pour en 2 à 5 ans, on se donne 5 ans en gros pour tout changer dans nos vies. 1. Arrêter l'avion, parce que en fait tu fais un aller-retour Paris-New York, t'as fini d'émettre ton quota annuel d'émissions si on veut avoir une chance de s'en tirer, qui est estimé en gros à 1 tonne 6 par Jean Covici, moins de 2 tonnes par le Commissariat Général au Développement Durable. Donc l'avion on arrête, et la voiture ça fait super mal ça, mais tu fais 5000 bornes en voiture, t'as fini ton quota de l'année. Donc vu qu'on veut faire d'autres choses, on veut pouvoir manger, se nourrir, s'éclairer, aller voir un film, on a dit, faut qu'on arrive à réorganiser nos vies pour tenir en 2000 bornes par an, maxi, en sachant que nous, on vit à la campagne, c'est pas un petit enjeu. Sur la nourriture, on a le projet, nous, on le fait déjà, mais on est maintenant 1400 à avoir pris cet engagement-là, et il y a plein d'autres gens qui le font sans l'avoir déjà mis, déclaré publiquement. Donc, manger... 100% bio local de saison. Pour nous, c'est presque un seul mot. Bio local de saison. Dès que tu les sépares, t'as une absurdité. Le bio d'Argentine, il est où le sens, quoi? Le local plein de pesticides importés, c'est des pesticides qui sont importés, mais la production elle est locale, il est où le sens? Non, dès que tu fais du bio local de saison, t'as un truc qui est chouette. Et aussi très très peu de viande, parce qu'en fait, la viande est effectivement extrêmement émissive. Et donc on parle pas forcément d'être puriste, tout le monde n'est pas obligé d'être vegan, mais nous on s'est engagé à manger de la viande normalement, quoi, c'est-à-dire au plus 1 à 2 fois par mois. quelque chose que l'humanité a toujours pu faire. Et au niveau de la consommation, on s'est engagé à ne plus acheter d'électronique neuve. Il y a déjà plus de machines connectées à Internet que d'humains dans le monde. Donc nous, on se dit qu'on pourrait essayer d'apprendre à les réparer et à les transformer, plutôt que de les jeter au bout de 18 mois comme on fait avec les smartphones et d'en fabriquer d'autres. Surtout si vous jetez un petit œil à l'ambiance dans les mines de coltan en République démocratique du Congo. L'idée qu'on fait bosser des gamins pour jeter des machines qu'on jette au bout de moins de 2 ans est un truc qui fait pas sens, quoi. La quatrième action, c'est qu'on fait pas ça pour le faire tout seul. Déjà, on le fait en collectif, donc on le fait pour faire pression sur l'État et les entreprises. Puisqu'à la base, ce que nous, on tient, c'est les engagements de l'État. Et notre but, c'est de le faire pour aller rappeler à l'État, dites donc, arrêtez de nous dire que c'est impossible. Nous, on le fait. Vous avez la puissance publique. Il est temps d'y aller, quoi. Aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de mettre en cohérence nos actes et nos valeurs. Et si on veut sauver le vivant sur Terre, ça va vouloir dire voyager plus lentement pour aller plus loin, mieux, avec plus d'aventures. Mais oui, partir un week-end au bout du monde, non, ça n'a aucun sens. Partir au bout du monde en stop, en vélo, en bateau, ouais, ça c'est du voyage.
Je te pose quand même une question sur le sol. On a parlé du climat. On n'a pas beaucoup parlé du sol. Je pense que c'est le grand oublié, finalement, des combats qu'il faudrait qu'on mène pour recréer de la vie dans le sol. Parce qu'en venant chez toi, j'ai vu des monocultures partout. J'ai vu des champs de mort. Je n'ai pas vu de diversité, ce que je peux retrouver ici autour de moi. Et la vie vient quand même là, elle pousse ici sous nos pieds.
Eh ben, là, dans 5 minutes, j'emmène ce groupe dans la forêt pour une raison simple. C'est que le sol de la forêt est le meilleur sol du monde. Et pour l'instant, ce que l'humanité a toujours fait, c'est que comme on a compris que la forêt fabriquait un sol incroyable, eh ben, on rase les forêts pour cultiver. Le projet de la permaculture, c'est une autre idée. C'est-à-dire, plutôt que de piller cette ressource merveilleuse, on va comprendre comment la nature fabrique un sol génial et imiter ces stratégies-là. Et toute l'idée de la permaculture, c'est de comprendre comment une forêt fabrique un sol qui est à la fois extrêmement perméable pour l'eau, pour l'air, pour la vie, hyper nourricier pour toutes les plantes qui sont là. Et une fois qu'on a compris les stratégies qui font que la forêt fabrique ces sols-là, on peut les appliquer à notre agriculture. C'est absolument vital. On en a un besoin vital pour nourrir l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de virer les sols bien, bien plus vite qu'ils ne se reconstituent. Et on oublie que l'ensemble de la vie sur Terre dépend de cette très, très fine pellicule à l'échelle de la planète. C'est aussi vital pour le climat. On a un principe en permaculture qui dit le problème, c'est la solution. Et ben là, c'est bien le truc. C'est quand on a trop de CO2 là-haut et on n'a plus assez de matière organique dans les sols. Et ben, quand on améliore la vie des sols, on fait des bien meilleurs sols avec plus de matière organique. Ben, mathématiquement, pour mettre de la matière organique dans le sol, on est obligé de prendre du carbone dans l'atmosphère et la stocker dans le sol. Et donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. On est en train de rendre vie à nos sols et en même temps, on diminue le problème climatique. C'est un des enjeux, une des voies d'espoir les plus grandes, de changer une agriculture qui détruit les sols vers une agriculture qui améliore les sols, la biodiversité et qui, de ce fait, nous arrange sur le climat. On a toutes les raisons de le faire. On sait le faire. À l'échelle collective, on n'a pas encore commencé. J'espère bien que l'engouement pour la permaculture va faire partie du moment où notre société va embrayer vers ce truc qui fait sens.
Tu fais vraiment écho à cette phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc c'est vraiment ce que tu essaies de vivre dans ton quotidien en appliquant cette cohérence, ou en tout cas en essayant d'être cohérent le plus possible.
Ça me touche beaucoup que tu conclues avec ça, parce que c'est notre modèle de cœur et c'est notre modèle stratégique. La non-violence, et donc on est non-violent dans résistance climatique, on est non-violent dans la permaculture, mais l'engagement. On se rappelle quand même que Gandhi, il a fait tomber un empire, l'empire britannique, mais en avançant, et quand le premier rang s'est effondré sous les matraques des soldats, le deuxième rang s'est avancé, puis le troisième rang s'est avancé, donc eux, ils n'étaient pas violents, mais c'est pas juste éteindre la lumière, c'est un engagement de vie. C'est pour ça qu'on se sent résistant, et on pense qu'aujourd'hui, il faut accepter une certaine part de prise de risque et de mise en danger, en tout cas de vulnérabilité et d'inconfort pour faire vivre nos valeurs. On peut pas juste être consommateur d'écologie. On a besoin d'être dans la non-violence active de l'écologie pour faire tomber quelque part cet empire productiviste qui est aujourd'hui incarné par tous les bords politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, même les écolos aujourd'hui sont productivistes. Si on veut pouvoir sauver le vivant, il faut une non-violence active qui s'oppose à cet empire-là, qui est un empire au moins aussi critiquable qu'elle était l'empire britannique à l'époque. Donc oui, carrément, Gandhi, pour nous, c'est un grand modèle stratégique pour créer les changements qu'on veut voir dans le monde. Et effectivement, notre stratégie, c'est de commencer par créer les changements qu'on veut voir dans le monde. à l'incarner nous-mêmes. Et un des principes aussi qu'on a en permaculture, c'est qu'on veut être ce changement-là en se créant des belles vies. C'est notre projet, c'est d'être heureux en incarnant le changement qu'on veut être dans le monde. Et ça marche assez bien. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie aujourd'hui, connecté aux gens, à la nature, aux arbres et aux enjeux mondiaux, que quand j'étais cadre dans une grosse boîte à Paris à passer des heures dans les embouteillages. J'ai connu la vie qui n'avait pas de sens. J'ai pris des risques, parce qu'à un moment, c'était l'inconnu. Et je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il y a tellement à y gagner à vivre selon ses valeurs, quoi.
Gildas, merci.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.